retour sur Creative Disturbance, Afrique Virtuelle. Je m'appelle Yvan Tina, je suis toujours en compagnie de Kofi Sename. Alors Kofi, on venait d'achever la discussion sur les rapports entre architecture et technologie, et tu as fondé, tu me diras en quelle année, l'African d'architecture à Lomé, au Togo. Et est-ce que tu peux nous dire un peu l'objectif et ton idée derrière, enfin lorsque tu as initié ce projet?
L'African d'architecture a été créée donc plutôt en 2010 et c'était censé fonctionner plus comme une plateforme, ouais, pour donc faire de l'addition de connaissances, pour donc être capable de promouvoir et de documenter ces approches néo-vernaculaires là, et si possible passer à du terrain si éventuellement quelqu'un nous en donnait l'opportunité pour aller faire du néo-vernaculaire. Donc c'était très limité pendant longtemps à des petits projets dans des villages, parce que le village s'y prêtait bien, et je suis passé à l'urbain quand j'ai découvert donc ce mouvement collaboratif avec les barcamps, des Fab Labs, etc. Je me suis dit, tiens, il y a là quelque chose que je peux utiliser pour faire du vernaculaire dans la ville aussi. Donc j'ai lancé un projet urbain autour d'un concept que j'appelle le Low High Tech.
Oui.
Et ce projet urbain s'appelle Hub Cité, et c'est ce projet Hub Cité qui a donné naissance au WELLAB, qui est le premier espace d'innovation créé à Lomé.
C'est un Fab Lab?
Alors au début, c'était principalement un Fab Lab, au tout début, oui. Et puis ça a évolué, c'est devenu un lieu un peu... En fait, ça s'est adapté au vide qu'il y a à Lomé, puisqu'il n'y a rien vraiment dédié aux nouvelles technologies et à l'émulation autour des nouvelles technologies. Donc le programme a évolué de Fab Lab, on est passé un peu à Coworking Space, à incubateur d'entreprise aussi, puisqu'il y a, cinq startups qui ont été créées dans cet espace. Et,
tu l'appelles la Silicon Villa, ça m'a fait rire ça.
Le programme de création d'entreprise, on l'appelle le programme Silicon Villa.
Ouais.
C'est aussi, bon, il y a d'autres petits programmes, on a un programme Food Lab, etc. Donc c'est un espace un peu bâtard maintenant. Comme il n'y a pas vraiment de nom pour cette typologie un peu mixte d'espace, nous on l'appelle espace de démocratie technologique. En fait, il y a un nom, il y a ce qu'on appelle les tiers-lieux, mais ce n'est pas une dénomination qui moi me plaisait, parce que c'est une dénomination par le négatif. C'est ni lieu de travail, ni lieu de détente, c'est ni, donc c'est un lieu de troisième voie, donc on l'appelle tiers-lieu. Alors que nous, on sait ce qu'on fait, ce n'est pas un lieu qu'on peut définir par le creux, en fait. Donc on a décidé d'appeler ça espace de démocratie technologique.
Et je voudrais savoir comprendre dans quel sens est-ce que les préoccupations autour de l'interaction entre, donc, si je comprends bien, le citadin et ces espaces, ces lieux, ces moments, les idées de collaboration dont tu as été inspiré à partir des mouvements de do-it-yourself, d'open source, etc. Comment est-ce qu'ils entrent en résonance avec les préoccupations néo-vernaculaires dont on parlait tout à l'heure?
Oui, comme je te l'ai expliqué dans le précédent podcast, c'est que ce qui fait que le vernaculaire marche, c'est qu'il y a des moments, des temps, des moments, des lieux et le temps long. Donc, on recrée ces conditions avec des moments de la ville qui sont les barcamps. Donc, c'est un concept qui a émergé aux États-Unis dans le milieu des nouvelles technologies, mais qui ressemble étrangement à ce qu'on retrouve dans les villages. Donc, moi, je me suis saisi des barcamps comme des moments de rituel qui peuvent aller dans la ville. Et je me suis aussi saisi des Fab Labs comme des lieux de rencontre qui peuvent pallier à l'absence de couvent, d'initiation ou de tout autre lieu de retour, de cohésion qui manque à la ville et que le village a. Et on a choisi quelques technologies bien ciblées, comme par exemple OpenStreetMap, qui est une technologie qui permet de reconquérir la capacité de renseigner son cadre de vie, etc.
Pour remplacer, cartographier, oui.
Voilà, exactement. Pour remplacer l'absence du temps long. C'est-à-dire qu'avec OpenStreetMap, les gens dans la ville peuvent eux aussi avoir accès à quelque chose qui leur permet de faire l'économie de ce temps long que les gens ont dans le village, mais arriver aussi à avoir une sorte de contrôle, une sorte de connaissance accélérée de leur cadre de vie. Donc le pari, c'était en associant des barcamps, des Fab Labs, et des technologies très, très ciblées, le tout mis ou additionné dans un petit territoire donné comme un petit quartier africain, on pouvait arriver à créer un quartier vernaculaire. Les gens se retrouvent grâce au barcamp, ils décident de solutions pour le devenir du quartier, ils investissent le lab, utiliser la technologie qui est en place pour commencer eux-mêmes à produire ces solutions-là. Donc on a fait plusieurs camps, on a essayé de créer plusieurs labs, l'idée c'était de répliquer, de répliquer, de répliquer pour qu'il y en ait, il y ait un camp pratiquement tous les 3 mois et un lab à chaque coin de rue.
Oui.
Un lab en particulier qui a réussi à survivre de ce process, c'est WeLab.
Oh ok, d'accord. Je comprends mieux. Parce que j'allais te demander, est-ce qu'il existait d'autres camps à part celui, enfin à part le WeLab justement.
Ouais, dans le process upcité, on devait faire 3 principaux camps et chaque camp devait donner naissance à un lab. Donc on a fait les 3 camps. On a créé 3 labs virtuels. Il y en a un qui existe réellement, qui est WeLab. Les 2 autres, WeLab Prime et WeLab Second, existent aussi puisqu'on a des communautés de ces 2 autres labs. Mais on n'a pas les moyens, si tu veux, de les affranchir de WeLab et de leur trouver des espaces distincts. Donc, ces communautés des 2 autres labs sont incubées dans le premier lab, le laboratoire mère, qui est WeLab.
Ok, écoute, tout ça nous amène progressivement à Afatmiku, si je comprends bien,
oui.
Qui est donc la première imprimante 3D fabriquée sur le continent africain, et en plus qui a été faite à partir de déchets électroniques. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce projet et tout le process qui vous a amené jusqu'à la production de cette innovation technologique?
Oui, alors l'imprimante c'est WAFAT, c'est W pour WeLab.
Ouais.
Et Afat, donc pour Afatmiku, qui est le jeune au lab qui a lancé le projet.
Parce que quand ok, donc Afatmiku, c'est le nom de celui qui a lancé le projet.
Qui a eu l'idée.
Je pensais que l'imprimante machine avait été baptisée en son hommage, en fait.
Non, il y a W pour WeLab et Afat, oui. Parce qu'on voulait que son nom soit dans la machine.
Ok, mais, d'accord.
Bon, ce n'est pas, comment dire... c'est parce que c'est lui qui a mis l'idée sur la table.
Oui, non, je comprends bien. C'est juste pour préciser pour les auditeurs, je me suis trompé. Donc c'est pas Afatmiku, c'est W Afat.
Voilà, ça c'est le nom.
Ok.
Et donc oui, donc quand on a créé WeLab, on l'a créé donc sous le un peu sous cette philosophie low high tech qui était que ça soit un laboratoire au service de la ville où on développe toutes sortes de projets innovants, mais dans un esprit qui est donc très 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 de la technologie de pointe, mais adapté à nos contextes africains. Donc soit qui utilise des ressources disponibles localement, soit qui est très low cost que les populations peuvent s'approprier, ou qui respecte le cadre de vie où il y a une petite réflexion anthropologique. Et le tout premier projet qui est sorti, c'est une imprimante 3D, parce que l'imprimante 3D est un peu la machine star de ces lieux que sont les Fab Labs.
Oui.
C'est la machine qui permet de fabriquer d'autres machines éventuellement. Donc c'est tout à fait logiquement que le premier projet qu'on a été amené à développer a été une imprimante 3D. Et donc un des jeunes qui avait rejoint le groupe, après qu'on ait monté une imprimante classique dont j'avais fait venir le kit d'Europe, s'est dit on peut essayer de la répliquer mais avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire en l'occurrence des déchets électroniques, puisque les déchets électroniques sont maintenant une ressource pratiquement locale en Afrique, il y en a partout. Et donc on a lancé ce projet en 8 mois, on avait réussi à le concrétiser.
Oh ok. Et à un moment donné, donc tu parles de... parce que tout à l'heure, tu me parlais de low tech, et là, tu as prononcé un mot, c'était low cost. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par cette approche low tech en fonction du coût de production, ou alors c'est vraiment un parti pris?
Non, c'est un parti pris. Enfin, l'objectif, c'est de faire du vernaculaire. C'est-à-dire que si c'est de la technologie, il faut que ce soit de la technologie produite par des Africains, avec leurs propres ressources et surtout une technologie qu'ils puissent s'approprier après. Et donc oui. Évidemment, si elle est moins chère, oui. Si elle est adaptée à nos bourses, il y a plus de chances que ça fonctionne. Donc il y a le coût, mais il y a aussi beaucoup d'anthropologie. On étudie beaucoup ce que c'est que l'organisation en Afrique, comment les Africains pensent, comment les Africains réagissent pour développer nos technologies. Pas seulement les technologies, mais aussi même les systèmes d'organisation au WELAB. On est très, très traditionnel dans l'organisation. Il y a un mode que j'ai mis en place de leadership tournant sur le principe des systèmes de classe d'âge. On est chef de projet pendant 3 mois. Après, on passe le relais à un jeune qu'on est censé porter lui-même, qui lui-même repassera la main. Donc, on puise beaucoup dans les systèmes d'organisation de nos villages.
Oui.
Et on essaie de remettre ça en place dans un lieu qui est censé être un lieu d'innovation. Donc, on travaille le paradoxe, en fait.
Ok. Je ne sais pas si vous êtes en discussion avec d'autres Fab Labs ou d'autres lieux d'innovation technologique comme ça en Afrique. Mais j'avais eu l'occasion de faire un podcast avec, j'ai oublié son nom, Gilles Kounou, je crois. Et il me parlait de technologie endogène. Gilles Kounou est ingénieur en système informatique au Bénin, à Cotonou. Et en t'écoutant, je me demandais, est-ce que tu as une idée des nouvelles tendances, entre guillemets, des futures tendances en Afrique et de la manière dont on pourrait faire émerger des technologies qui répondent à des besoins locaux ou qui adoptent des formes traditionnelles ou enfin voilà qui répondent à des exigences locales. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant.
Les tendances en Afrique, non, je ne peux pas te dire que j'ai une vision claire de ce qui.
Je veux dire, depuis l'imprimante 3D, parce que l'imprimante 3D a connu un boom il y a 5 ans et depuis c'est démocratisé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur un autre projet de cette nature?
Oui, on a plein de projets. En fait, si on veut parler de technologie endogène,
oui.
Disons que les Africains sont déjà très. Comment dire, très créatif, très producteur. On invente beaucoup, on produit beaucoup, on invente pratiquement un nouveau truc tous les jours.
Oui.
Mais on le fait un peu dans l'esprit système D.
Oui.
Ce qu'il faudrait, ce que nos politiques n'ont pas encore compris, c'est qu'il faudrait un peu professionnaliser ce système D là, tout ce réflexe un peu informel, plutôt que d'essayer de la combattre pour parier sur une grosse industrie, etc. Si on fait plutôt le pari très humble de l'industrie de proximité, où on, à travers des médiations comme développer des machines-outils sur le mode de l'imprimante 3D qui permettent de faire mieux ce qu'on fait presque instinctivement aujourd'hui, on peut arriver à mailler les territoires africains de petites industries, qui sont des industries
oui.
plus de la proximité, qui produisent des séries limitées, etc., mais qui donne qui offre une production très de qualité, très adaptée, etc. Donc moi je pense qu'il faut parier beaucoup sur tout ce qui est machine-outils, fabrication, découpage, etc. En tout cas pour tout ce qui est dimension design et production et produits, voilà, mm-hmm. pour changer tout ce catalogue de produits que nous utilisons. Et qui ne sont, on va dire, pas à niveau, même s'ils sont très inventifs, parce que chacun en Afrique est capable de se fabriquer sa petite natte pour dormir, sa petite chaise pour s'asseoir, on trouve toujours une idée, mais il y a maintenant des outils en accès libre, dans les
oui.
partagés sur Internet, qu'on peut s'approprier, essayer de répliquer localement, qui permettrait de faire rentrer du design. Si tu veux, dans ce truc-là qu'on fait avec un peu beaucoup de réflexes et qui n'est pas très pensé.
Ok. Donc, toi, pour toi, les nouvelles tendances se situent plutôt dans ce secteur-là, les machines-outils, le développement de machines-outils
dans l'avenir. Ce n'est pas une tendance, mais ce serait le pari que moi je ferais. Si j'avais un petit pouvoir, je parierais plutôt sur ce secteur-là. Et d'ailleurs, ouais. ce ne serait pas un pari. Tout nous y invite parce que justement, c'est ce qui se passe en Occident. En Occident, il y a comme une sorte de remise en cause de ce qu'on appelle le marché, la grande industrie, etc. Et on tend de plus en plus, notamment à travers ce mouvement collaboratif, vers une éthique de la production de proximité, de la petite production, de la production de série, etc. Donc si les Occidentaux y pensent eux-mêmes, c'est que c'est un mouvement vraiment de fond. Et un mouvement pour lequel, et c'est ce qui m'a intéressé moi le plus, sur lequel nous avons déjà un petit avantage parce que nous le pratiquons déjà. On a déjà ce petit réflexe collaboratif. On l'a déjà de façon naturelle en Afrique. Et donc, si on rentre de plein pied dans ce mouvement, il y a de fortes chances pour qu'on en soit un peu à l'avant-garde.
D'accord. Bah, je pourrais pas conclure ce podcast sans te poser cette question, une question en rapport avec l'art. Est-ce que tu, toi-même déjà, est-ce que tu te considères comme un artiste? Ou sinon, est-ce que tu es, comment dire, au courant? Est-ce que tu es attentif à ce qui à ce qui se produit actuellement au Togo, par exemple, dans le domaine de la création contemporaine, d'artistes qui font usage des technologies.
Bon, est-ce que je suis artiste? Moi, je me suis cru poète pendant 10 ans. Je ne sais pas si tu considères les poètes comme des artistes.
Oui.
Pendant 10 ans, donc, c'est te dire que j'y ai cru pendant assez longtemps. J'en suis revenu.
Oui.
Je suis artiste un peu de formation puisque je suis principalement architecte, mais c'est là une façon d'être artiste qui n'est pas validée puisque j'ai pas beaucoup l'opportunité de m'exprimer, j'ai pas énormément construit. Après, au Togo, non, non, je suis pas beaucoup, je sais pas trop ce qui se passe et encore moins dans de l'art qui associerait de la technologie. Par contre, j'ai eu une démarche très importante d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophie Penn,
Oui.
qui enseignait à l'École des hautes études en sciences sociales, qui animait un séminaire qui s'appelle Discours et pratiques du futur, qui est même la personne, moi, qui m'a fait rentrer dans un Fab Lab la première fois, qui avait proposé à un moment donné, s'était battu à un moment donné pour qu'on fasse rentrer notre imprimante 3D, donc l'imprimante 3D Wafat,
Oui.
au musée des Beaux-Arts, si mes souvenirs sont bons. Donc elle trouvait que cet artefact qui est complètement industriel, enfin artisanal, industriel, bricolé, avait un statut d'œuvre d'art, du fait de son histoire, le fait qu'on n'était alors qu'une petite poupée sans connexion Internet, une dizaine de jeunes, et qu'on a réussi un peu à faire ça avec des bouts de fil, mais que c'est devenu une machine très mise en avant, illustrant même, étant même pris comme le symbole de la révolution industrielle à venir, que ça avait un statut d'œuvre d'art, que ça pouvait rentrer dans un musée de beaux-arts. Donc, j'ai trouvé ça assez...
Musée des Beaux-Arts à Lomé.
Non, non, elle voulait le faire rentrer dans un musée ici, en France.
Ah, en France.
Ouais.
Ok. Bah écoute, pour faire écho à ça, enfin, il me semble qu'il y a une exposition dans une galerie d'art qui s'appelle Seconde Nature à Aix-en-Provence, qui était dédiée à ça, qui s'appelait Archéologie des médias. Peut-être que vous pourriez vous rapprocher de ces personnes-là. Il me semble que ça ferait peut-être sens dans ce cadre-là. Bah écoute, merci beaucoup, Kofi. Je te remercie pour ta disponibilité, le temps que tu nous as accordé aujourd'hui sur Afrique virtuelle.
Merci à toi, Yvan.
Bah écoute, à une prochaine, on reste en contact alors.
À très bientôt.
Allez, bye bye.
Bye.
Merci.